Masterclass de France Culture. Aujourd'hui, Caroline Champetier avec Antoine Guillot.
Bienvenue dans cette masterclass de Caroline Champetier, prix France Culture Cinéma Consécration 2023, s'il vous plaît. Enregistré en public au cinéma Le Méliès à Montreuil. Alors vous ne le savez peut-être pas, mais pour peu que vous vous intéressiez au cinéma, vous avez forcément vu à un moment ou à un autre de votre vie des images fabriquées par Caroline Champetier pour des films signés par d'autres et pas n'importe qui. Jean-Luc Godard, Jacques Doyon, Benoît Jacquot, Xavier Beauvoir et aussi Philippe Garrel, Anne Fontaine, Arnaud Desplechin et encore Claude Lanzmann et beaucoup d'autres encore, impossible de les citer toutes et tous, parmi les quelques 130 films, je crois, que celle qu'Agnès Varda, surnommée l'ingénieuse de la photo, a dirigé côté photographie en 40 et quelques années, sans parler des films que vous avez signés vous-même, Caroline Champetier, comme réalisatrice. Alors ce sera une masterclass tout à fait exceptionnelle, outre les qualités et les capacités de Caroline Champetier à expliquer comment elle donne une matérialité aux images qu'ont rêvé les cinéastes avec qui elle travaille. Mais parce que, une fois n'est pas coutume dans les masterclass de France Culture, dans cette série, nous allons nous appuyer précisément sur des images, soit des extraits de films que les spectatrices et spectateurs privilégiés du cinéma Le Méliès à Montreuil pourront voir, mais que vous, qui nous écoutez, vous pourrez imaginer ou convoquer dans votre mémoire si vous avez vu les films en question. Alors avant de passer à un premier extrait, une question de vocabulaire pour commencer, Caroline Champetier. Dans le livre que vous avez co-dirigé avec Giusy Pisano au bien nommé Édition de l'œil, la fabrication de l'image au cinéma, les divers intervenants dont vous-même sont désignés sous l'appellation de chef opérateur. Vous, je crois que vous préférez être appelée directrice de la photographie. Alors aux États-Unis, c'est plus simple, tout le monde est cinématographeur quand il fabrique des images. Mais quelle différence vous faites entre les deux termes qu'on utilise en France et pourquoi vous préférez l'un à l'autre, Caroline Champetier ?
Oh, précisément parce qu'il y a le mot photographie dans directeur de la photographie, que chef opérateur, je trouve que ça ne provoque aucune image. Et puis, plus précisément, historiquement, le chef opérateur est cet être étrange qui apparaît à la nouvelle vague, même si on peut se dire aussi que l'opérateur lumière, c'était un chef, mais c'était l'opérateur. Je trouve ça plus, c'est l'idée de chef opérateur qui me déplaît. Donc à la nouvelle vague, quand bon ces jeunes hussards arrivent et déciment les équipes et sortent des studios, puisque la nouvelle vague est à la fois une révolution esthétique, mais évidemment une révolution économique du cinéma. Cet homme-là, parce que c'était des hommes, s'appelle chef opérateur. Et je trouve que là, c'est juste. Il y a quelque chose de qui évoque bien la façon de baroudeur qu'ont eu ces directeurs photos à ce moment-là, qui n'étaient pas tous baroudeurs comme Coutard, hein, qui pouvaient être des êtres extrêmement cultivés. Enfin, ça ne veut pas dire que Coutard ne l'était pas, mais Almendros, c'est quelqu'un qui avait une culture cinématographique absolument prodigieuse, hein, qu'il avait déjà acquis en Espagne, puis après, quand il avait été à Cuba, il avait participé à la cinémathèque de Cuba, et aussi au fait qu'elle se renforce, je dirais, de film en film. C'est lui qui permettait qu'il y ait ces échanges avec la France, etc. Et toutes ces copies 16 mm dans lesquelles ils ont vu les plus grands films, quoi.
On a compris à peu près la différence. Maintenant, on va essayer de comprendre quel est votre métier, en quoi ça consiste de diriger la photographie. On va commencer par un premier extrait. C'est le premier long métrage dont vous avez dirigé la photographie. Ça commence par un crépuscule. On est à Bruxelles en 1982.
Thank you.
Et après, elle sort dans la rue. C'est un long extrait donc du tout début de Toute une nuit de Chantal Akerman, prélude à une pérégrination comme ça dans la nuit bruxelloise. Ça commence au crépuscule, ça se finit à l'aube. Et il y aura une succession de micro-récits comme des fragments du discours amoureux à Bruxelles au début des années 80. Est-ce que vous savez pourquoi Chantal Akerman avait fait appel à la toute jeune assistante que vous étiez alors, Caroline Champetier, principalement d'ailleurs de William Lutchansky?
On était amis. Comment je l'avais rencontré, je sais plus. Mais en tout cas, j'étais déjà avec Claude Jean-Philippe au cinéma des cinéastes.
Et il y avait France Culture.
Oui. Et il y avait eu le choc Jeanne Dielman, quoi. Et j'avais vu Jeanne Dielman et les choses étant beaucoup plus faciles à cette époque-là, je crois que je l'avais rencontré. Et que, mon élan pour le film avait dû lui plaire. Je me souviens qu'on passait du temps ensemble. Donc voilà, elle m'a proposé ce film et qui se passait intégralement la nuit à Bruxelles. Et j'y suis allée avec une petite fille qui venait de naître d'ailleurs, ma première fille, sous le bras. Et on tournait toutes les nuits, j'allais la nourrir le matin parce que sinon il fallait bien le faire. Et c'était un tournage où à la fois je savais peu de choses, mais où je crois que ça se sent déjà dès les premières images. Enfin, la lumière, il y a quelque chose de la lumière qui me retenait. J'ai été beaucoup plus facilement photographe d'ailleurs j'ai plus facilement saisi la lumière que le cadre. Le cadre et c'est pour ça que j'ai eu la chance et extraordinaire de travailler avec des cinéastes confirmés. Et Chantal était une cinéaste confirmée. Elle était même une cinéaste née, on peut le dire. Je dirais pendant les presque 10 premières années, quoi. Parce que ce soit Chantal Akerman, Jean-Luc Godard, Jacques Rivette, c'était des cinéastes qui avaient déjà une vision et puis surtout un geste différent les uns des autres, hein, des objectifs de référence différents les uns des autres. Mais moi, je continuais à apprendre. J'ai pas commencé avec ma génération. Ma génération est arrivée avec Arnaud Desplechin. Quand je fais La Sentinelle. Donc, mais pourquoi je vous raconte ça, en fait? Parce que ce n'est pas votre question, mais...
Oui, mais c'est l'apprentissage. C'est-à-dire que vous avez plus appris en travaillant avec ces cinéastes qui avaient une vision, pour le coup, très sûre, qu'à l'IDEC ou auprès de Lutchansky.
Ah non, j'ai appris à l'IDEC, j'ai appris auprès de Lutchansky, extraordinairement. Lutchansky était un grand maître du contraste. C'était quelqu'un qui aimait les images à la fois saturées avec des noirs profonds. Voilà, j'ai appris à faire ça auprès de lui. Mais la façon dont des directeurs de la photo venant d'ailleurs, dont Almendros, c'est pour ça que je le recite, dont Philippe Rousselot, plus jeune, à une génération venant un petit peu après, des gens comme Lutchansky et Almendros, et traitant l'image de façon plus souple, plus douce, moins exposé, comme on dit, comme on expose un négatif, ça m'attirait. En fait, je suis vraiment une fille de mon époque, moi. J'ai voulu me servir d'une caméra parce que il n'y avait pas de filles qui s'en servaient. J'étais une fille des années 70. Et puis, allant au cinéma, les choses me plaisaient et ça a été le début des pellicules sensibles. Et effectivement, je suis allée du côté de la pellicule sensible, à la fois comme outil. Mais cette idée que le noir n'est pas un noir photographique, un noir qui vous intimide, le noir de Manet, c'est ce que Berthe Morisot disait quand elle disait de Manet, « Ah, ce noir, j'y arriverai jamais. » Donc, voilà, j'ai l'impression qu'en fait, je suis beaucoup plus faite par mon époque, je dirais, que par moi-même.
Parce que, oui, il y a peut-être deux écoles dans la photographie. Il y a ceux qui partent du noir et qui rajoutent de la lumière, et ceux qui partent de la lumière et qui vont... pas forcément rajouter du noir, mais qui vont orienter une lumière naturelle. Vous êtes plutôt de cette deuxième école?
C'est-à-dire que c'est le studio. C'est le studio qui et quand je travaille sur les films de Carax, qui est quand même quelqu'un qui part du noir. Non, je pars du noir. Donc, en fait, la question du cinéma, c'est toujours des questions extrêmement pragmatiques et concrètes. Hein. Bon, le peintre aussi, hein, mais quand vous dites ça, il y a quelque chose de beaucoup plus pictural qu'une démarche de photographe. Nous, on est forcément soumis à quelque chose d'extraordinairement physique. Un espace, est-ce que la lumière le traverse ou pas ? Un studio est par définition un royaume noir, quoi, dans lequel on ajoute, on sculpte avec de la lumière. Le décor naturel, évidemment, le décor naturel, c'est quelque chose qui est transpercé ou sculpté déjà par la lumière. Alors, vous pouvez le travailler en positif, en rajoutant de la lumière, en négatif, en enlevant. La sensibilité, par exemple, des caméras numériques aujourd'hui nous fait parfois travailler en négatif, enlever de la lumière plutôt qu'en ajouter. Et d'ailleurs, c'est ce que faisaient beaucoup de réalisateurs ou même de grands directeurs photo quand ils arrivaient dans les studios, parce que leurs équipes prééclairaient. Et ils ne demandaient pas du tout qu'on ajoute de la lumière. Ils disaient, tu m'éteins ça, tu m'éteins ça, tu m'éteins ça. Et comme ça, quelque chose apparaissait plus nettement, se dessinait plus nettement.
Alors, qu'est-ce qu'on fait avec la lumière quand... Là, pour le coup, elle est naturelle. On va voir un deuxième extrait, je pense, de quelqu'un qui vous a appris aussi beaucoup sur cette question.
Ils n'avaient pas eu à ouvrir les yeux. La douceur les ouvrait pour lui. Il n'avait pas à respirer. Il était respiré. Une image était apparue. Où la nuit était restituée à elle-même.
Est-ce que vous êtes finlandaise ? Il n'y a que les Finlandaises pour avoir comme ça des yeux de braise. Est-ce que vous êtes hollandaise ? Il n'y a que les Hollandaises pour avoir comme ça des yeux de braise. La, 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 la.
Pleuriez pour que vienne la nuit, elle tombe. Maintenant, pleurez dans l'obscurité. D'abord, les gens sont beaucoup plus malheureux qu'on ne le croit. Et puis, le fond de tout, c'est qu'il n'y a pas de grave personne.
Retour au pays natal. Retour de celui qui n'a plus besoin d'être un invité. Oh, quand donc la fin allait-elle apparaître ? Où allait-elle apparaître ? Quand la malédiction allait-elle se briser ?
C'est la première prise.
Non, mais on parlait. Ça a l'air d'aller.
Ouais, c'est mieux. Hein.
Oui. Qu'est-ce que tu refais alors ? Tu refais juste les infilles à colorer ?
Ah, ouais, l'intro, je la garde, elle est parfaite comme ça.
Bon, là, on le prend là-dedans.
L'intro, tout ce qu'on faisait pas avant, je le garde et puis après,
ouais.
On prend.
Une fille à colorier. Bon.
C'est comme ça.
Je dirais.
Le premier.
C'est, vous l'aurez reconnu sans doute, Soigne ta droite de Jean-Luc Godard. On est quoi, en 1987 quand le film sort,
mais 85 quand on le fabrique. Ouais.
Mais 85 quand vous le fabriquez, et je ne sais pas sur combien de temps, parce que c'est un film qui a été tourné par segments, par morceaux. Il y a plusieurs morceaux qui dialoguent, comme on le voit ici, donc entre cette séquence avec Jacques Villeray qui est tourné dans un hôtel à Trouville et le travail des Rita Mitsouko en train de créer leur deuxième album, un peu comme fait Jean-Luc Godard. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas où ils vont, mais ils le créent.
No comprendo, oui. Oui. Et d'ailleurs, ça lui plaisait beaucoup que ce soit un couple qui travaille ensemble. Ça, il adorait cette idée. Et que ce soit des musiciens, effectivement, qui fabriquent ensemble.
C'est une période où vous êtes dans la fabrique, Jean-Luc Godard.
C'est un moment où il me fait venir à Périphéria, travailler pour lui et être responsable de tout ce qui concerne l'image. Il avait une secrétaire, un assistant, et moi j'étais responsable de... Voilà, j'avais un petit parc lumière, quelques projecteurs, je lui ai fait acheter une caméra, des objectifs. On était totalement indépendants, oui, comme un petit studio indépendant. Et on fabriquait des séquences de films, parce que vous avez raison, les films ne se faisaient pas comme ils se font habituellement, c'est-à-dire dans une continuité normale où on tourne 4 semaines, 8 semaines... Mais on savait que cette semaine-là, on avait ça à faire. Ça, c'est quelque chose que Godard m'a beaucoup appris. Ça a fonctionné par séquence. Parce que c'était comme ça qu'il concevait ses films. C'était une construction de séquences qu'il agglomérait. Mais il en connaissait absolument le déroulement précis, le prix, le système de fabrication, etc. Et ça m'a beaucoup servi par la suite. Ça me sert encore. Pour La Sentinelle, par exemple, à comprendre qu'il y avait plusieurs films dans le même film. Et que l'espèce de mollesse du toujours le même matériel, toujours le même mode de fabrication pour un film, est quelque chose qui peut être assez néfaste. Il faut savoir changer de registre quand on fait un film. C'est bien ce que fait Terrence Malick, par exemple. Avec beaucoup plus d'argent, beaucoup plus de moyens, mais c'est changer de registre à chaque séquence.
Et ça, c'est une question que vous vous posez dès que vous recevez un scénario, peut-être avant même de discuter avec le ou la cinéaste qui a envie de travailler avec vous, avec qui vous avez envie de travailler. C'est où est-ce que vous allez, vous voyez tel type d'image apparaître, tel type de scénario aussi à l'intérieur d'un scénario?
Non, les images, enfin, les images, elles sont pas dans la tête, vous savez. Les images, elles sont derrière la tête, derrière, quelquefois loin derrière. Et puis surtout, on avance vers elle. C'est une drôle d'idée de penser qu'un metteur en scène est quelqu'un qui a plein d'images dans la tête et qu'elles sortent comme ça, en ruban ou en... Non, on s'avance vers des images, on cherche, on les construit, on les... ça s'imagine. Le mot est vraiment... Voilà, ça s'imagine. Après, il y a des systèmes de référence qui font qu'on passe par d'autres images. Les mots ne nous aident pas toujours, mais quelquefois, un mot peut aider, quoi. C'est un trajet de fabriquer à la fois des images et un film. Ça n'est pas quelque chose qui sort tout fait, c'est impossible. Mais on le comprend très bien de la musique. On comprend que la musique s'écrit. D'ailleurs, il n'y a rien de plus beau qu'une partition. Et on s'étonne que le film s'écrive. Ben non, c'est pareil. Mais ça s'écrit avec beaucoup plus d'ingrédients. Je dis pas que le monde des notes n'est pas... Mais il faut des acteurs, il faut des costumes, il faut des décors. Il faut énormément de négociations entre les personnes. Et c'est ça qui est magnifique au cinéma, en fait. C'est cette espèce de négociation constante entre des gens qui ont décidé de faire quelque chose ensemble, qui partagent un espace extrêmement réduit, parce que à l'époque de la pellicule, c'était quand même de la taille d'un photogramme. Aujourd'hui, c'est de la taille d'un capteur. Vous le voyez sur des écrans qui peuvent avoir 20 mètres de base. Mais à l'origine, c'est un tout petit espace que se partage beaucoup de monde. Et... c'est un peu l'utopie du cinéma, quoi. Et l'utopie, moi, je dirais, de l'art en général. C'est-à-dire cet endroit où quelque chose se négocie de la sensation, de la connaissance, de la culture. Et c'est pour ça qu'il faut le défendre aussi ardemment.
Mais c'est une négociation, c'était aussi un pari, en tout cas à l'époque où les images que vous preniez ne se révélaient qu'une fois qu'elles avaient été développées, que vous voyez les
rushs. C'est le même processus. La seule chose qui change aujourd'hui, c'est que tout le monde a le retour, tout le monde a une image. Et parfois, ça empêche, du coup, d'aller vers l'image. Parce que de la voir trop vite, vous en êtes trop rapidement le spectateur. Quand elle n'existait pas, sur un plateau, parce qu'il n'y avait pas de retour, tout le monde, en fait, avait l'image dans la tête ou ne l'avait pas. Mais quelque chose de mystérieux se passait. Et cette notion magnifique de la caméra obscura avait vraiment un sens, quoi. Là, trop rapidement, on pense que parce qu'on l'a, on la regarde sur un écran, on la voit, on la comprend, et c'est pas vrai, quoi. C'est pas vrai. Parce que c'est Agnès Godard qui disait ça hier, parce qu'on était chez Potemkin. C'est très juste. D'ailleurs, une image, quand on la fabrique, voilà, elle n'a pas l'image d'avant, l'image d'après. Elle n'a pas la séquence d'avant, la séquence d'après. D'abord, elle se modifie parce qu'elle sera étalonnée. Du coup, on avance à l'aveugle aussi. À la fois, on cherche les images, les séquences, bon, il y a cette négociation, mais on avance beaucoup à l'aveugle.
Et quelle est votre position, vous, sur le tournage ? Vous êtes derrière la caméra ou vous êtes à côté ?
Moi, je suis derrière, puisque j'hérite de cette histoire du cinéma qui est très française et qui est la Nouvelle Vague. Je suis vraiment une sorte de petite fille de la Nouvelle Vague. Je ne veux pas les vieillir, mais quand même, ça, c'est... Oui, petite fille ou petite nièce. Donc, cette réduction des équipes, et qui a fait qu'un directeur de la photographie a fait aussi le cadre, alors qu'avant, dans le cinéma d'avant-guerre, ou aux États-Unis encore maintenant, ou dans le cinéma russe, il y avait un directeur de la photographie et un cadreur. Eh bien, après la Nouvelle Vague, il n'y a eu qu'une seule personne chargée des deux postes. Pourquoi ? Parce que les metteurs en scène de la Nouvelle Vague, ils avaient envie de négocier avec une seule personne. Ça allait plus vite. Il y avait quelque chose du geste et d'une sorte de rapidité, peut-être même parfois brutalité du geste qui leur convenait. Et du coup, beaucoup des directeurs de la photographie français, des grands directeurs de la photographie français, sont cadreurs. Et souvent des très bons cadreurs.
Mais il y a parfois aussi des cinéastes qui veulent être, eux, derrière la caméra.
Oui, là, ça ne m'est jamais arrivé. Ça m'est arrivé de travailler avec un cadreur sur un film de Garel. Mais sinon, le cadre est tout à fait un autre endroit que l'endroit de la lumière. Alors après, ça se rejoint. Mais le cadre, d'abord, c'est physique. C'est incroyablement physique. Ça vous demande de travailler sur votre respiration. Ça vous demande de... Oui, des attitudes corporelles qui peuvent être parfois difficiles, hein. Non pas douloureuses, mais difficiles. Porter la caméra, ça peut être quelque chose qui engage le corps, quoi, vraiment. Mais c'est très différent de la lumière. Après, là où ça se rejoint, c'est que le ratio lumière-cadre que vous avez, et qui est le vôtre, et que vous, je dirais, polissez en tant que directeur photo, au moment du cadre, vous le retrouvez. Moi, par exemple, j'y suis très sensible. Je sais que je cadre tout autant la lumière que le personnage. Il y a quelque chose... J'ai besoin de cette dialectique-là quand je cadre. Ça doit être différent pour chacun. Analyser son geste de cadre, ça m'intéresserait de le faire plus, mais il faudrait que quelqu'un me donne la réplique.
Bon, on va peut-être essayer alors sur l'extrait suivant, où là, pour le coup, le cadre suit effectivement aussi bien un personnage que la lumière.
Ta maman, elle est morte. Tu sais ce que ça veut dire ?
Oui. Elle vole avec son miroir magique.
Elle est morte. Moi aussi, je pensais qu'elle serait là tout le temps. J'étais tranquille, je pouvais faire l'imbécile, j'avais confiance. Je savais que t'étais avec elle.
Cracher pour que tu meurs pas.
Bah. crois que je vais réussir à me démerder avec toi, tout seul?
Oui, tu vas te démerder.
Elle était toute cassée, tu sais. Il n'y avait rien à faire. Rien.
Je vais nous consoler, nous deux.
Oui, je veux.
Vous écoutez France Culture, c'est la masterclass de Caroline Champetier. Je ne sais pas dans quel état vous étiez, Caroline Champetier, quand vous avez tourné ce film Ponette de Jacques Doyon. Nous, on est tout bouleversés quand on voit même ces trois minutes. Quelle proximité on a avec cette formidable Victoire Tivisol qui jouait Ponette quand on est au cadre et qu'on la filme dans des séquences comme ça?
C'est paradoxal parce que On est très près là, mais en fait, j'étais assez loin, dans le sens où c'était une caméra assez encombrante. On avait pris le principe absolument inverse, de se dire il faut qu'on soit au centre des enfants, près d'eux, avec eux, etc., puisqu'il y avait plusieurs enfants. Il y avait elle, mais il y en avait d'autres. On avait une caméra assez encombrante, qui était une movie cam, je crois, avec des magasins de 300 mètres, parce que Jacques fait des plans assez longs et puis surtout, il fait beaucoup de prises. Donc, faisant beaucoup de prises, c'était mieux de ne pas recharger. Parce que tous les films que vous avez vus là jusqu'à maintenant sont des films tournés en argentique. Donc, cette caméra, elle était un peu monstrueuse. On avait acclimaté les enfants à ce monstre. Ils étaient montés dessus. On leur avait montré ce que c'était que le chariot de travelling. Ça les avait amusés une heure. 2 heures, et puis après, ils s'en étaient totalement désintéressés. Et du coup, nous, voilà, on était avec notre grosse machine en face d'eux, et en fait, Jacques les dirigeait absolument comme des acteurs, quoi. Et on travaillait 8 heures. Il y avait la réunion des petits, la réunion des grands, la réunion des petits. Il y avait des coachs, évidemment, pour apprendre les textes. Il y avait une psychologue qui venait tous les samedis, on tournait 5 jours, et puis le samedi, il y avait une psychologue qui venait et entendre les enfants, comprendre comment ça allait. C'était un tournage, je pense, d'une intelligence et d'une... Et je crois que c'est une des choses que Victoire a rendues au film, c'est-à-dire que ses parents se séparaient à ce moment-là de sa vie, et je crois que cette douleur, elle a pu l'exhumer, ou en tout cas la faire passer dans le film, en fabriquant quelque chose, et ça donne ce personnage extraordinaire de Ponette, qui arrive à souffrir devant nous, et je dois dire que moi, mon rapport aux acteurs s'est vraiment modifié à partir de Ponette, c'est-à-dire que cette idée que c'était des gens qui allaient chercher quelque chose en eux, très proche ou très lointain, et qu'ils ne travaillaient qu'avec ça, parce qu'ils n'avaient rien d'autre, hein. Pas d'outils, pas de masque, pas de... ça me les a rendus infiniment plus précieux et plus valeureux aussi.
Est-ce qu'on éclaire et est-ce qu'on filme une petite fille comme on filme une femme, une actrice,
un
adulte?
Un enfant, c'est merveilleux. Parce qu'un enfant, c'est... D'abord, un enfant n'a pas souvent pas conscience. Bon, il sait... Je ne sais pas si les enfants aujourd'hui, avec toutes ces histoires de selfies, de tout ça, ont plus conscience de leur image. Mais un enfant n'a pas conscience de l'image qu'il donne. Donc... tout est possible, c'est comme un petit animal, ça n'est que de la vie, quoi. Nous savons, une actrice sait à quel moment son visage est bien positionné, la lumière, les actrices sont savantes, avec leur apparence. Donc un enfant, c'est extraordinaire. C'est ce qui nous a sans doute amené à être d'autant plus près tout le temps. À chaque fois que je revois Ponette, je suis sidérée par le fait que c'est des gros plans tout le temps. Même si on sent beaucoup le hors-champ. Et en fait, c'est elle qui nous amenait à ça, quoi. Elle nous attirait.
Vous parlez du contrôle des images des actrices. Les actrices vous demandent souvent d'être éclairées d'une, de telle ou telle manière, de voir ce que ça donne.
Elles peuvent le demander sans le demander. Et de toute façon, c'est quelque chose qu'on s'impose. Filmer quelqu'un, c'est quand même avoir envie de lui... de le rendre beau, quoi, ou belle. Donc, forcément, c'est quelque chose qu'on s'impose. Et c'est un visage d'enfant, c'est pas un visage de... Les femmes peuvent être magnifiques toute leur vie, mais après, il y a quelque chose qu'il faut arriver à accepter, des angles, de la façon dont la lumière tombe sur un visage. Il faut travailler. Et peut-être que les enfants nous permettent de jouer, simplement. Ça a été beaucoup, ça, Ponette. Ça a beaucoup été un jeu. Un jeu avec eux.
Est-ce que vous-même, vous vous sentez mise en scène par les cinéastes avec qui vous travaillez? Est-ce que vous travaillez avec Godard ou Doyon ou Ackerman et d'autres dont on va parler tout à l'heure? Ça vous donne une position, même des mouvements différents?
Oui, on est complètement mis en scène. Un grand metteur en scène met en scène ce qu'il y a devant la caméra, mais évidemment ce qu'il y a derrière. Et parfois très en amont du tournage, quand il permet à ce que des gens se rencontrent ou pas, quand il crée des tensions ou pas. Donc, bien sûr qu'un metteur en scène vous met en scène et met en scène tout un dispositif, même technique, parce que ces outils, nous les choisissons avec eux. Là, en ce moment, je prépare un film avec Benoît Jacquot. Comme on a fait par cœur ensemble, il a envie que cette petite caméra volatile soit aussi de la partie, même s'il y en aura une autre, c'est déjà de la mise en scène.
Vous parlez de petite caméra volatile, on va en voir un exemple, justement, un moment de bascule. Dans le cinéma, on est en 2004-2005.
Qu'est-ce qu'il y a, Vincent? Tu te sens mal?
Non, je vais chercher à boire.
Tu as raison, c'est une bonne idée.
Moi, j'ai envie d'avoir des enfants, mais...
Oui. Jack aussi.
Mais je crois pas au mariage.
Non, c'est pas marié.
Je crois au divorce.
On n'est pas marié, on a des enfants.
Ouais.
Donc c'est possible. Ça n'a rien à voir.
Mais on peut rester amants après.
Ouais.
Pour avoir eu des enfants, oui.
Bien sûr. Tu peux rester amant avec qui tu veux.
Jacques.
Toujours.
Mais ça, je sais. Mais tu peux l'empirer.
Mais c'est peut-être aussi un truc comme, je sais pas quoi, comme... Mon enfant, ça fait le sentiment d'un... C'est un peu grave, là, je devrais dire ça en Laurent. J'ai pas le temps, hein. Mais avec un bout de temps, ça serait mieux dit. c'est le pays d'où on vient. On en est sorti. Et si on n'y revient pas de temps en temps, si on n'a pas un enfant, on ne peut pas y revenir. J'ai pas l'impression de ça du tout. Donc un enfant, c'est pas lui piquer son enfant, c'est pas lui piquer sa jeunesse, mais c'est y revenir. Quoi. Si on revient pas vers l'enfance, c'est nul. Moi, je vois les adultes qui ne ressemblent pas, qui jamais ne reviennent vers leur enfance. Qui ont décidé qu'ils étaient des adultes. Et plus des enfants, plus jamais des enfants, juste des adultes, c'est... T'as pleuré, enfin, c'est à vomir, je sais pas ce qu'il faut dire. Non? C'est à vomir ou c'est à vomir?
Ah si, on est d'accord, tous d'accord.
Pas de péché.
Il a un peu de chat.
Thank you.
On a vu Jacques Doyon au centre de ce groupe d'amis qui discutent du mariage. Ce n'est pas un film de Jacques Doyon, c'est un film de Nobuhiro Suwa, un couple parfait. Et on a là à la fois deux valeurs de plan, un plan fixe, large, qui rassemble tous ses amis, et cette caméra portée très près du visage de Valeria Bruni-Tedeschi. Et ce sont là deux caméras différentes
du
film. Caroline Champetier.
Je ne sais plus pourquoi... Nobuhiro avait vu le film que j'avais tourné avec Amos Gitai et la volatilité de la caméra, justement, dans Promised Land, lui avait donné envie de l'utiliser pour ce film, Un couple parfait. Comme si une caméra pouvait être entre les deux éléments d'un couple qui tente de se défaire, puisque c'est l'histoire de ce film, en fait, de tenter de se défaire et de peut-être pas se défaire. Moi, je n'étais pas si sûre que ce soit une bonne idée. J'interroge assez souvent les idées des metteurs en scène. Et je pensais qu'au contraire, il fallait que l'espace entre eux soit filmé et que ce soit une caméra un peu plus solide, qui permette des plans plus larges, qui fasse le travail. Mais parfois, nous nous autorisions à suivre le personnage et à vouloir rentrer dans sa tête. Et c'est ce qu'on fait là avec Valeria. C'est-à-dire qu'il y a des moments où... Et c'est drôle que vous montriez ça, parce que je parlais de ça ce matin avec Benoît Jacquot pour un film à faire. Donc c'est intéressant et je vais revoir Un couple parfait. Oui, c'est ce que je disais aussi de cette façon de ne pas considérer qu'un film puisse forcément ou doit forcément avoir le même outil du début à la fin. Ça se fait beaucoup maintenant, mais ça se faisait pas à l'époque. Il fallait une caméra, une série d'objectifs, etc. Moi, je ne l'ai jamais pensé. Et donc, changer de registre parce qu'un personnage le demande ou une séquence permet de le faire, c'est intéressant, quoi. C'est juste continuer de chercher à travailler plus précisément sur un personnage. Là, il s'agit d'un personnage, hein, c'est-à-dire de cette femme qui est censée s'écarter de son mari.
Mais c'est un film qui a été tourné à moitié en analogique, à moitié en numérique, ou c'est
entièrement en numérique. Entièrement en numérique.
C'est le début du numérique.
C'était le début du numérique. C'était une caméra Sony que j'ai pas mal utilisé, c'est celle avec laquelle j'avais fait 5 avenues Marceau. C'était une Sony avec des réglages NHK, parce que c'est des réglages beaucoup plus fins, il n'y avait pas de contour, il n'y avait pas tout ce qu'il y avait dans les premières caméras vidéo analogiques et les petits capteurs, c'est-à-dire ce qu'on appelait du contour autour des personnages, etc. Et donc, j'aimais beaucoup cette caméra, et la petite caméra est... une caméra géniale. Des caméras géniales, il n'y en a pas tant que ça. Hein. Dans l'histoire de la cinématographie.
Vous donnez son nom de cette caméra géniale ?
À cette caméra géniale, mais il y en a eu d'autres, donc je vais la donner, je vais donner d'autres noms. C'était la DVX100 de Panasonic. Elle était entièrement construite autour d'un objectif. Donc en fait, c'était comme un objectif. J'arrivais à la tenir avec une main, à pouvoir faire le diaph. Je la maniais vraiment comme un petit violon. Et je me suis beaucoup amusée avec. Et d'ailleurs, c'est cette caméra qui m'a, entre autres, permis de rencontrer Carax. Je pense qu'il est tombé amoureux de la caméra, Carax. Et c'est avec ça qu'on a fait merde.
C'est pour ça que quand je vous ai demandé quelle était cette caméra, vous m'avez dit, c'est la caméra de merde.
C'est la caméra de merde.
Dans un sens tout à fait laudateur.
Ça, c'est l'humour de Léos. Parce que tout était forcément de merde sur merde. Mais je crois que oui, cette souplesse et tout d'un coup, cette volatilité de la caméra lui a permis de croire à ce personnage. Et là, on parle de Tokyo, hein, c'est-à-dire ce segment de Tokyo qui s'appelle Merde, et dont le personnage est un monstre qui vit dans les égouts de Tokyo, et que nous avons suivi pendant 3 semaines à Tokyo.
Et qu'on retrouvera dans Holy Motors, puisque c'est une des incarnations de...
Absolument.
De Monsieur Oscar. Quand le numérique est arrivé et que la pellicule a fini par disparaître quasi totalement, enfin, vous l'avez accueillie comment ce
Elle est toujours là, la pellicule.
Hein. Oui, elle est toujours utilisée. Elle est plus majoritaire, en tout cas.
Beaucoup aux États-Unis, elle n'est pas majoritaire, mais elle est toujours là. Et puis surtout, elle nous a totalement construit. Comment on a accueilli ça comme une aventure? On s'est jeté dedans. De toute façon, on pouvait pas. On n'avait pas les moyens d'y résister. Après, il a fallu analyser ce que nous avait apporté la pellicule. Et la pellicule nous a apporté quelque chose qu'on n'avait pas du tout mesuré. C'est-à-dire que l'espace couleur de Kodak a été l'espace couleur des films pendant tout le temps de la magnificence de Kodak. Et que aujourd'hui, nous sommes tout à fait lâchés dans l'océan des couleurs. Kodak fabriquait un espace couleur. Hein. Un espace couleur, c'est comme une palette, la palette d'un peintre. Kodak avait la sienne. Travaillant avec Kodak, on travaillait avec l'espace couleur de Kodak, c'est-à-dire la saturation des rouges de Kodak, la retenue des verts de Kodak. Peut-être vous l'avez fait, filmer du vert et la nature avec une caméra numérique, vous verrez ce qui se passe. Ça peut être effrayant. Et donc maintenant, ça, on a à le reconstruire. On a mis énormément de temps. En fait, on a été incroyablement paresseux, quoi. On était là avec ses outils. Moi, je sais pas, mais Loubchansky changeait assez peu de série d'optique. Il y avait quelque chose où le matériel, finalement, était une sorte de continuation de l'esprit et du corps du directeur photo. Et on reproduisait de film en film une sorte de carapace technique qui était celle du directeur photo. Mais maintenant, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il y a beaucoup plus d'outils, parce qu'il y a des tailles de capteurs différents et parce qu'il y a quelque chose de la diversité qui est arrivée dans les films. Je pense que quand on compare la façon dont les films étaient fabriqués et dont on les lit aujourd'hui avec une sorte de confort visuel du spectateur, aujourd'hui, on n'est plus malmené en tant que spectateur. Ben, ça vient aussi de cette diversité technique qui s'empare du film au moment où il se fabrique.
Mais au moment où il se diffuse aussi, parce que à quel point vous pensez à comment le film sera projeté à la fin, comment les couleurs que vous allez travailler au degré de chromatisme près va peut-être être fichu en l'air par une lampe un peu fatiguée d'un projecteur ou par une télévision mal réglée. Je vous parle même pas des téléphones portables sur lesquels vos images finissent parfois.
Ben, les téléphones portables, ils sont assez fidèles, hein. Contrairement à ce qu'on croit. Le numérique a apporté beaucoup de fidélité à la projection. Bon, le téléphone, c'est pas de la projection. Mais la reproductibilité des images devient de plus en plus exacte. Donc, non. Ce que ça nous demande à nous, c'est simplement de travailler plus parce qu'on n'a pas ce carcan qui n'était pas un carcan, parce qu'il était totalement accepté par nous, de quelqu'un qui voyait le monde avec son espace couleur, c'est-à-dire Kodak. Et ça pouvait être Fuji. Fuji, c'était un peu différent. Hein, il y avait une variante. Il y avait aussi dans la texture de la pellicule un peu plus de douceur. Mais c'est extraordinaire de ne pas avoir analysé que nous étions tout à fait dans un monde, placés dans un monde. Et là, on en est sorti.
Alors on va peut-être voir un tout dernier extrait parce que le temps file très très vite. On va aller dans un autre endroit où on est dans un carcan, mais là c'est carrément une prison, une geôle.
Je suis frère Paul moine au monastère de l'Atlas. Et je suis en bonne santé.
Je suis frère Célestin. J'ai 63 ans. Moine au monastère de l'Atlas. Je suis en bonne santé.
À toi, Luc.
Je m'appelle frère Luc de monastère de l'Atlas, oui. J'ai entendu l'information de médias et là, je suis pris en otage avec mes collègues par la Jama... comment ça s'appelle ?
Islamia.
Jama Islamia, oui, c'est ça. Voilà.
À toi, Christian.
Dans la nuit du jeudi au vendredi, les Moudjahidines nous ont lu le bayan de la Jama Islamia Musalaha, dans lequel... Signé par Abu Abderrahman Amin, dans lequel il est dit que nous sommes retenus en otage et il est demandé au gouvernement français de libérer un certain nombre d'otages appartenant à ce groupe en échange de notre libération. Cet échange étant une condition absolue.
Vous avez entendu, hein?
Vous écoutez France Culture, c'est la masterclass de Caroline Champetier et ses moines qu'on vient d'entendre décliner leur identité avant de lire la lettre de revendication de leur ravisseur. Ce sont ceux évidemment du film de Xavier Beauvois. C'était en 2010, Des Hommes et des Dieux, ça vous a valu un César, de la meilleure photographie en 2011. Alors je sais pas si, comme nous à la radio, on est très sensible au grain des voix et... Écoutez, Lonsdale ou Wilson, c'est toujours voilà, ça provoque beaucoup de choses. Vous, j'imagine, c'est le paysage des visages qui vous passionne au moment où vous les filmez. Je vous ai demandé si on filmait un enfant comme on filmerait une actrice. Est-ce qu'on filme un acteur comme on filme une actrice? Est-ce qu'on l'éclaire pareil, Caroline Champetier?
Là, il s'agissait aussi beaucoup d'hommes âgés, et ça, c'était magnifique. Parce que des hommes âgés, c'est aussi un peu comme des enfants. C'est-à-dire qu'ils ont abandonné quelque chose. Et c'est très, très beau à regarder. C'est la seule chose qui m'a permis de préparer des hommes et des dieux, c'est les autoportraits de Rembrandt. Et je me disais, si on arrive à ça, c'est-à-dire à ce regard tellement introspectif que Rembrandt a sur lui-même... on aura trouvé quelque chose et on saisira quelque chose de ces visages. Alors là, ils sont dans une situation un peu particulière, mais il y a toutes ces séances de chapitres, etc., où vraiment là, le travail sur le visage et sur le portrait... Et d'ailleurs, quelquefois, j'étais un peu trop longue à régler des choses de lumière et Beauvois s'énervait en disant « Alors maintenant, Rembrandt, ça suffit, là !» Là, on arrête. Mais c'était aussi une caméra géniale, parce que c'était la Pénélope d'Aaton. C'est une caméra film, c'est un film tourné en film et qui a été scanné. Il a été tourné en deux perfs, c'est-à-dire que normalement, une pellicule 35 a quatre perforations. Là, elle n'en avait que deux. C'était par mesure d'économie. On a fait ce film à budget bloqué, hein. C'est-à-dire qu'on a fait ce film pour 3 millions. Et il a eu 3 millions de spectateurs. C'est vous dire le succès qu'il a eu. Et donc, ça permettait donc de tourner avec moins de négatifs. Mais après, il fallait que le scan soit à la hauteur de ça. Et je me suis beaucoup battue pour que le scan ne soit pas un scan 2K, mais un scan 4K. Ce qui permet à l'image, et je pense que vraiment c'est ça qui a donné à l'image sa texture assez particulière... Et en même temps, où il y avait des rapports de couleurs qui étaient extrêmement fins. Je n'avais pas du tout la même chose en 2K. Je me souviens d'avoir pleuré dans les couloirs d'éclairs en disant « Mais c'est pas du tout ce que j'ai fait, c'est pas ce que j'ai fait, c'est pas mes rapports de contraste. » Et effectivement, le 2K ne rendait pas, c'est la compression de l'image, hein, ne rendait pas ce que j'avais fait. Et donc, j'ai convaincu la production, Pascal Cocheteux, et j'ai convaincu le laboratoire de faire chacun un mouvement l'un vers l'autre. Et j'ai pu scanner le film en 2K, et ça donne l'image des hommes et des dieux. Mais tout ça vient de cette caméra Pénélope, qui était donc une caméra à Aton, extraordinairement légère, avec une visée claire, mais une visée qui faisait que je n'avais quasiment pas le sentiment de viser, quoi. Je regardais, c'est tout. Que je pouvais avoir à l'épaule, avoir sur les genoux, et qui fait qu'en fait, on ne s'en rend pas compte absolument en voyant le film, 40% du film est fait à l'épaule. À l'épaule ou sur les genoux, ou dans les cellules des moines, qui étaient des tout petits espaces, même un pied de caméra, c'était trop. Donc je la tenais vraiment, je rentrais dans les murs avec la caméra. Et le film n'aurait pas été le même sans cette caméra. Donc là encore, une caméra géniale, d'un inventeur génial.
Ce qui est amusant, c'est que vous avez filmé d'autres types de religieux, des religieuses pour Anne Fontaine. Et c'est la question quand même de filmer la religion, filmer la foi, filmer le sacré, ça passe aussi par la lumière. Et comment est-ce qu'on fait pour, je ne sais pas, faire quelque chose de profane sur le sacré ou du sacré dans le profane? Enfin, il y a cette question-là qui se pose quand on filme.
Moi, je ne me pose pas la question. Moi, pour moi, la lumière, elle est souvent divine, oui. Elle est divine, le mot n'est pas juste. La lumière, c'est spirituel, quoi. L'éclairage, c'est l'éclairage, mais la lumière, la lumière, d'abord, elle est pas là dans tous les plans, hein. Elle est là, parfois, dans quelques plans. Et puis, il y a des films où il n'y a pas du tout de lumière. Je vous rassure. Et puis, il y a des films où il y en a vraiment et on, voilà, autant le spectateur que quand on fabrique le film, c'est quelque chose de spirituel. Qui peut être fabriqué, qui peut être accepté, si on jamais c'est une lumière extérieure, mais ça nous, il y a quelque chose qui nous élève, quoi. Voilà, l'éclairage a quelque chose de plus pragmatique, de plus utilitaire, de plus, voilà.
Ce qui est très beau aussi dans Les Hommes et les Dieux, c'est comment ces moines se fondent parfois dans le paysage, notamment dans ce paysage enneigé. Enfin, on a l'impression par moment que leur visage et le paysage, c'est presque pareil. Enfin, je ne sais pas si c'est un sentiment que vous aviez en filmant, parce que je parlais de deux écoles aussi de la direction de la photographie. Il y a l'école du paysage, il y a l'école du visage, ou c'est la même chose?
Non, la question du plan large. Mais ça tient au cinéaste, hein. Bon, Ackerman était une cinéaste née, mais Beauvois était un cinéaste né. Il avait une sorte d'évidence dans la façon dont il regardait les choses, les axes, et cette fameuse idée de la valeur des plans. Et vous remarquerez qu'aujourd'hui, il y a beaucoup moins de plans larges dans les films qu'on voit. Beauvois était un cinéaste du plan large. Il avait une vraie capacité à savoir se reculer. C'est à ce genre de choses qu'on reconnaît un cinéaste, quoi. C'est à cette façon de savoir imposer la durée d'un plan, la distance qu'on est obligé d'avoir par rapport au personnage ou à une scène. Et à ce moment-là, on comprend qu'on a affaire à quelqu'un qui a ce qu'on appelle un point de vue, quoi. Mais même le mot point de vue n'est pas exact. Qui se situe, quoi. Qui se situe par rapport à ce qu'il regarde. Alors déjà, il faut regarder, c'est une chose, et regarder, c'est un acte, mais il faut se situer par rapport à ce qu'on regarde. Et là, on a un cinéaste.
Et ça, vous le sentez tout de suite, même chez un jeune cinéaste, vous travaillez beaucoup avec de jeunes cinéastes.
Oui, le film que vous allez voir, si certains d'entre vous restent après, c'est le film d'un très jeune cinéaste. C'était un scénario éblouissant. Et vraiment, j'ai eu envie de le faire tout de suite. On a eu un rapport, c'était en fin de confinement, je me souviens. On se voyait avec Faisal.
Faisal Boulifa, le film.
On était assez...
Les damnés ne pleurent pas.
Passionnés par ce qu'on évoquait. Il avait des références qui étaient tout à fait les miennes. C'est un film, d'ailleurs, très proche de Fassbinder, avec la dureté des personnages de Fassbinder et en à la fois une ouverture possible au monde, à la sensation. Et dans la fabrication, Faisal a montré quelque chose de différent, c'est-à-dire il avait moins d'espace réel, physique, que d'espace imaginaire. Et quand vous êtes avec un cinéaste qui fait ses premiers pas, c'est difficile, oui, c'est pas forcément conflictuel, mais il faut l'amener à cette idée du regard et de où on se situe dans l'espace. Parce que ça a été la grande question avec Faisal, c'était se situer dans l'espace.
Merci beaucoup. Caroline Champetier, c'est fini ?
Bon.
Déjà, merci d'avoir passé cette heure avec nous. Merci aux équipes du cinéma Le Méliès et merci aux équipes techniques de Radio France. Merci.
C'était la masterclass de Caroline Champetier avec Antoine Guillot, enregistrée au cinéma Le Méliès à Montreuil. Attachée de production, Corinne Amar. Coordination, Christine Bernard. Prise de son, Stéphane Foulon. Coordination technique, Francesca Fossati. Réalisation, Émilie Vallat.